CQFD.
Voici un sujet en nouvelle diffusion consacré à notre ventre. Notre ventre est en train de devenir l'objet de toutes les attentions de la part des chercheurs occidentaux, au point que vous ne direz bientôt plus appareil digestif, mais deuxième cerveau. Oh, j'ai mal à mon deuxième cerveau, on pourra peut-être le dire une fois. Et s'il faudrait l'appeler deuxième cerveau, c'est non seulement à cause des 200 millions de neurones qu'on y trouve, mais également grâce au dialogue incessant que notre deuxième cerveau a avec le premier, notre cerveau crânien. Cécile Guérin, cet engouement pour ce deuxième cerveau vous a interpellé.
Oui, d'autant plus que la découverte des premiers neurones dans l'intestin ne date vraiment pas d'aujourd'hui, mais du 19e siècle. À l'époque, en Angleterre, deux chercheurs, William Bayliss et Ernest Terling, sont les premiers à montrer que le système nerveux dans le ventre d'un chien, là ils ont fait des expériences sur le chien, oui. C'était au 19e siècle, on le précise, fonctionne indépendamment du cerveau principal, on va dire. Et cette découverte a suscité un débat assez nourri entre scientifiques de l'époque, et puis tombe dans l'oubli pour des histoires de personnalité. Enfin, je passe sur le détail, ça tombe dans l'oubli dans les années 1920 et on redécouvre finalement ce deuxième cerveau dans les années 2000. Donc le système nerveux entérique est aujourd'hui au cœur de recherches actuelles et d'une nouvelle discipline médicale, la neuro-gastro-entérologie. Donc neuro pour neurologie, étude des neurones du cerveau, et de gastro-entérologie, l'étude de l'appareil digestif. Alors Michel Neuliste est justement neuro-gastro-entérologue. Je l'ai rencontré à l'hôpital universitaire de Nantes, à l'Institut des maladies de l'appareil digestif. Son laboratoire est en pleine ébullition, ils sont en train de déménager. C'est pour ça qu'on entend un peu du bruit autour de lui. Et il va nous décrire justement les neurones qui sont situés dans notre ventre.
Dans notre tube digestif, on a environ 200 millions de neurones, c'est-à-dire autant de neurones que dans la moelle épinière, ou à peu près autant de neurones qu'un cerveau de chat ou de pieuvre. Donc pour vous donner une sorte d'ordre de grandeur. C'est énorme, et ce qui fait finalement du tube digestif le deuxième organe neurologique de notre corps après le cerveau.
Comment ils se présentent ces neurones? Ils sont différents de ceux qu'on a dans le cerveau?
La caractéristique principale du neurone est identique. La seule différence, c'est l'endroit où ils sont situés. Donc ils sont totalement identiques, sauf au lieu d'être situés dans la boîte crânienne, ils sont situés dans notre tube digestif et ils recouvrent l'ensemble de notre tube digestif du haut, c'est-à-dire de l'œsophage ou de l'estomac, jusqu'au rectum et à l'anus. Il y a deux types d'organisation de ce système nerveux. Un système nerveux qui est contenu dans le muscle de notre tube digestif qui a la fonction de réguler la motricité digestive, et un deuxième plexus qui, lui, est contenu dans la muqueuse, qui fait l'échange entre notre corps et l'environnement extérieur. Et ce système nerveux, il régule effectivement une fonction majeure de notre tube digestif, qui doit être d'absorber les nutriments, mais aussi de nous protéger face à notre environnement extérieur, qui n'est pas toujours bénéfique, mais qui peut aussi être des fois délétère.
Alors en plus de ces 200 millions de neurones assez nombreux, il y a des cellules gliales entériques qui les accompagnent et ces cellules-là intriguent les scientifiques.
Nous avons 10 fois plus de cellules gliales que de neurones dans notre tube digestif.
2 millions ?
2 milliards ? 200 millions,
200 millions fois 10,
ça fait 2 milliards de ces cellules qui sont un peu des cellules dont les fonctions sont relativement mal connues et sur lesquelles notre laboratoire travaille particulièrement. Ce dont on sait, c'est qu'elles ont des analogies avec les astrocytes du système nerveux central.
Donc c'est celles qui nourrissent un peu les neurones.
Et voilà, c'est donc la cellule tout à fait nourricière du neurone, neuroprotectrice, mais qui n'agit pas uniquement sur le neurone, mais qui peut aussi agir sur les autres composantes du tube digestif, et en particulier de la barrière épithéliale intestinale, où là aussi, c'est une cellule qui protège. Et probablement, elle joue un rôle beaucoup plus important que la cellule neuronale, dans la mesure où on peut imaginer le neurone comme un système qui répond de manière extrêmement rapide, alors que la cellule gliale est beaucoup plus importante, elle est une sorte de cellule qui est en train d'imprégner ou de jouer un rôle constitutive de consolidation majeure et extrêmement important. La preuve de ce rôle majeur, on peut l'illustrer avec des expériences qui ont été réalisées chez l'animal, dans lesquelles on élimine ces cellules gliales. Et dans ce cas-là, le tube digestif, la fonction du tube digestif est complètement perturbée, les animaux meurent. En revanche, si on élimine ou si on empêche le neurone de fonctionner, schématiquement, on a des troubles digestifs qui sont importants, mais pas aussi, où les modifications ne sont pas aussi dramatiques en éliminant les neurones que les cellules gliales.
Donc on comprend bien qu'il y a d'un côté des neurones qui sont de 30 types différents, donc il y a plein de sortes de neurones. De l'autre côté, des cellules gliales qui sont indispensables, on l'a entendu, et qui vont fonctionner comme les cellules que l'on a dans notre cerveau. Et en plus, elles vont communiquer entre elles via des molécules qu'on appelle les neuromédiateurs. C'est ce qui se parle entre neurones, couramment notamment la sérotonine, qu'on connaît bien hein, dans notre cerveau, qui est impliquée dans la régulation de l'humeur, de l'appétit, du sommeil. Elle fonctionne aussi dans notre appareil digestif.
Il y a beaucoup de monde, hein, dites-moi là-bas dedans, dans nos viscères. Du coup, le terme de deuxième cerveau, est-ce que c'est un terme qui est vraiment justifié ?
Eh bien, avec toutes ces caractéristiques, à la fois les neuromédiateurs, les neurones, les cellules gliales, le fait qu'ils soient autonomes, pour Michel Neulist, neurogastro-entérologue à l'hôpital de Nantes, il va même, lui, jusqu'à dire que ce n'est pas le deuxième cerveau, mais que ce cerveau digestif serait notre premier cerveau.
Par définition, si effectivement un cerveau est doté d'une intelligence, effectivement un cerveau qui est intelligent dans la mesure où il doit s'adapter en permanence à son environnement et en réponse à cet environnement de développer des programmes d'adaptation à cet environnement, effectivement c'est à considérer comme un vrai cerveau, ce d'autant plus qu'il a aussi l'ensemble des constituants nécessaires à former entre guillemets un cerveau, c'est-à-dire qu'en son sein, au sein même du tube digestif, on a des neurones sensoriels, on a des neurones, des interneurones et aussi des neurones effecteurs. Donc on a vraiment une machinerie totalement intégrée dans ce tube digestif qui est capable de réguler l'ensemble de ses fonctions de manière totalement indépendante, en plus du premier cerveau.
Et ce tube digestif, à l'origine, il est développé en même temps, enfin, d'un point de vue de l'embryon, le cerveau et le tube digestif partent de la même chose ?
L'origine est un peu différente, mais ce qu'on peut dire, c'est que finalement, il y en a un qui doit être prêt pour développer l'autre. C'est-à-dire que le premier qui doit être mature, le plus développé, c'est le tube digestif qui doit permettre le développement du cerveau, en particulier grâce à l'absorption des nutriments à partir de la naissance, voire même dans la vie fœtale, où c'est peut-être un peu moins le tube digestif qui joue son rôle central, et plus la mère. Donc c'est vraiment une deuxième mère, ce tube digestif, pour permettre, dès la naissance, de participer au développement du système nerveux central. Et on comprend bien qu'à la naissance, ce tube digestif doit être fonctionnel pour permettre le développement non seulement du cerveau, mais de l'ensemble des organes.
Pour vous, le premier cerveau, c'est celui qui est digestif, et puis le deuxième, c'est celui qui est sous la tête ?
Non, mais ça, c'est un point de vue personnel. Donc, c'est biaisé par mon métier. Voilà.
Mais bon, tellement été oublié, le cerveau digestif, quand même. Il a été très oublié.
Il a été effectivement très oublié. Je pense qu'il l'est encore. Et on a peut-être une période un peu de revival ou d'intérêt sur ce deuxième cerveau qui est peut-être moins dû à sa nature en tant que telle, mais plutôt avec le développement de toutes les nouvelles données sur le rôle de l'environnement, sur la santé digestive, sur la capacité en particulier de la flore à influencer les humeurs. Donc, on sait que l'environnement joue un rôle central. Donc c'est vrai qu'on est dans...
Et l'alimentation.
Et l'alimentation, pour moi, l'environnement, c'est un sens large. Ça fait partie de l'alimentation. La nutrition, l'air qu'on respire, les toxiques que nous absorbons, qui tous vont se retrouver, s'intégrer finalement au niveau de ce système nerveux entérique, qui est séparé finalement uniquement de l'extérieur par cette fine couche de cellules épithéliales intestinales.
Si ce deuxième cerveau a la cote, Cécile Guérin, c'est qu'il pourrait en partie expliquer certaines maladies liées à l'environnement.
Effectivement, après, il y a eu beaucoup de recherches sur la cause génétique des maladies. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la cause environnementale. Mais c'est vrai que c'est compliqué à étudier, de savoir comment, finalement, l'environnement va influer sur notre corps. En quoi, notamment, certains pesticides ou des bactéries pathogènes ou des nutriments qui sont parfois toxiques pénètrent et agissent à l'intérieur de notre corps. Mmh. Et c'est vrai que... ce qui est sûr, c'est que toutes ces molécules, à un moment donné, se retrouvent dans le tube digestif, d'où l'intérêt d'aller y voir de plus près. Ajouter à cela l'effort de recherche sur un autre pan de ce qui existe dans notre tube digestif, ce sont les 100 000 milliards de bactéries de notre flore intestinale qui cohabitent justement, et l'effet de cette flore sur toutes les cellules de l'intestin. Et l'autre sujet d'intérêt des chercheurs, c'est justement la communication entre nos deux cerveaux, à savoir l'axe entre le cerveau sous le crâne et l'intestin, ce qui se passe quand ça va mal. Autrement dit, comment des anomalies de l'intestin pourraient avoir des répercussions sur le cerveau. Et dans l'autre sens, c'est aussi vrai. Michel Neulist.
On sait clairement quand même que nos humeurs ou que le stress est capable d'impacter sur nos fonctions digestives. Je pense qu'on a tous eu des moments de grande solitude,
peur.
De grande peur et associé à des grandes solitudes. On essaie de localiser le signe des toilettes le plus proche pour pouvoir prendre en charge une réponse adaptée. Mais inversement, on sait aussi de plus en plus que notre tube digestif, que ce soit via le système nerveux entérique ou directement via la circulation sanguine, comme je vous l'ai dit, ou le nerf vague, peut impacter sur notre comportement et sur nos humeurs. Ça, c'est l'ensemble des travaux qui ont montré, par exemple, d'une part, que le microbiote intestinal, donc notre flore bactérienne, était capable, via la libération de médiateurs qui reste encore à déterminer, d'influencer nos humeurs, d'être responsable de troubles, de l'anxiété, de troubles du comportement. Donc ça c'est une façon finalement qu'a notre intestin de communiquer directement avec le cerveau.
Est-ce que aux émotions, quoi.
De lier aux émotions. Donc c'est un vrai lien qu'on a entre notre intestin et nos émotions. Il y a probablement d'autres expériences qui restent encore à être détaillées, que certaines bactéries sont capables aussi de modifier le comportement de notre cerveau qu'on a en utilisant des approches d'IRM fonctionnelles, donc d'imagerie fonctionnelle, qui montrent que on a des activations différentielles de certaines zones du cerveau après avoir ingéré certains types de bactéries. Donc ça reste vraiment un domaine à explorer, mais très prometteur, certainement.
Dans quelle pathologie, par exemple, ça pourrait servir?
C'est, par exemple, le syndrome de l'intestin irritable ou encore la colopathie fonctionnelle, qui est caractérisée à la fois par des troubles digestifs, mais aussi des troubles, donc, diarrhée ou sécrétion, mais aussi par des troubles de la douleur abdominale, donc d'hypersensibilité ou de modification de la sensation, douloureuse abdominale, pardon. Et donc ça, c'est un peu la maladie aussi prototypique de nos deux cerveaux, finalement. La douleur, c'est effectivement pas régulé par notre système entérique, mais plutôt par notre cerveau de notre boîte crânienne. En revanche, les troubles digestifs sont probablement régulés par notre deuxième cerveau et ce système d'avant entérique.
Donc actuellement,
les deux dysfonctionnent, en fait. Donc finalement, on a une dysfonction des deux, et une des approches thérapeutiques qui est en train d'être développée, c'est justement d'utiliser des agents bactériens bénéfiques, donc des probiotiques, pour essayer de rétablir une bonne fonctionnalité normale de ces deux cerveaux. Et donc prendre en charge non seulement les troubles digestifs, mais aussi les troubles de la sensibilité viscérale.
Et dans les thérapies futures, pour ces maladies chroniques intestinales ou pour le fameux syndrome de l'intestin irritable, Michel Leliste évoque également la stimulation du cerveau entérique avec des électrodes. C'est un peu ce qu'on fait quand on stimule le cerveau pour, vous savez, les maladies de Parkinson ou certaines fois.
On pourrait
le faire dans l'intestin. Donc c'est une des pistes de recherche.
J'imagine évidemment que vous suivrez de très près ces traitements encore en développement, Cécile. Mais là, vous nous emmenez loin des chercheurs nantais.
Oui, pour une autre approche autour du soin au ventre, une méthode qui n'a rien à voir avec la science, on va dire actuelle, mais qui est une méthode très ancienne. Il s'agit de médecine chinoise traditionnelle et d'une branche de cette médecine, à savoir le massage abdominal Qinetsang. Nous sommes donc à Lausanne, chez Vitao Hogan, qui pratique ce massage du ventre particulier.
En Qinetsang, on travaille avant tout sur l'intestin grêle, sur notre deuxième cerveau. Et l'idée au début de la séance est de chaque fois faire respirer la personne sous mes mains dans son intestin pour qu'elle redescende de son premier à son deuxième cerveau, qu'elle puisse prendre l'ascenseur, descendre d'un étage dans son ventre, se reconnecter à son centre. C'est aussi un centre de décision, de réflexion important. Donc on commence toujours une séance en respirant bien et en faisant redescendre la personne qui arrive stressée, en retard, avec des problèmes de zone bleue, de parking, pour la faire redescendre et revenir à l'intérieur. Et en Qinetsang, on ouvre toujours d'abord le nombril, donc au centre de notre intestin grêle. C'est comme d'ouvrir une porte ou une fenêtre avant de faire le ménage, avant de secouer les tapis. Une fois qu'on a bien ouvert le nombril, on s'occupe de l'intestin grêle, qui est un très long organe. Je crois qu'on dit que si on déroulait entièrement notre intestin grêle, avec tous ses replis, ses villosités, on arriverait à 200 mètres carrés, à l'équivalent de deux terrains de tennis. Donc imaginez ce qu'on peut retenir dans notre intestin grêle. Et le lien entre le premier et le deuxième cerveau, en médecine traditionnelle chinoise, mais en Qigong aussi, dans les pratiques taoïstes, le deuxième cerveau, l'intestin grêle, est l'endroit principal où l'on stocke les énergies que l'on cultive, que l'on transforme, que l'on génère. Donc l'intestin grêle joue, même si à l'époque, comme il ne faisait pas d'anatomie, il n'avait pas forcément une idée à quoi ressemblaient anatomiquement les organes, les taoïstes savaient que dans l'intestin grêle, on peut stocker énormément d'énergie.
Et lors de cette séance, Sylvie, la patiente, est allongée et reçoit ce massage abdominal. Alors, dans son histoire médicale, Sylvie a souffert d'épilepsie, de migraine, qu'elle a intuitivement reliée à des problèmes de ventre. Après une opération du cerveau, elle suit aujourd'hui à la fois des traitements en médecine classique et en médecine complémentaire. Pour l'heure, elle respire sous les doigts de la praticienne en massage Chinetsang.
On est sur la partie supérieure donc de l'intestin grêle, là où l'estomac se jette dans l'intestin grêle. Il y a énormément d'organes à ce niveau-là aussi. Il y a le gros intestin, plus profondément il y a le pancréas. C'est une zone extrêmement chargée. Beaucoup de gens ont des tensions dans cette zone. En Chinetsang, ce sont ces points juste entre le nombril et le sternum, qui sont les points du péricarde et du cœur. Et on travaille beaucoup sur cette zone parce que beaucoup de gens ont énormément d'émotions quand ils ont la boule sous l'estomac. Souvent, ils montrent cette boule ici plutôt qu'à gauche sous l'estomac, plutôt ici au centre, donc au niveau du plexus solaire. Donc, je montre une technique toute simple. L'idée, c'est aussi de donner des outils aux gens où les gens posent leurs doigts sur leur plexus et vous inspirez. En inspirant, vous repoussez vos doigts et expirez. Et en faisant le son du cœur, poussez vos doigts à l'intérieur, allez plus profondément, faites-le vite, maintenant tournez en spirale, massez. Quand on masse l'intestin grêle, il peut souvent y avoir des émotions qui ressortent aussi.
Oui, c'est juste, en tout cas des émotions incontrôlées, parce que ça se passe à un autre niveau que le contrôle de la tête.
Vous mettez à pleurer, par exemple ?
Par exemple, une émotion qui vient, qui est incontrôlable et qui fait du bien de sortir parce qu'après, on est allégé. En tout cas, c'était mon impression. J'ai pu ce rêve depuis.
Vous avez revécu ici, dans cette séance ?
J'ai revécu, en fait, des moments de mon opération où je sentais tout ce qui se passait. Alors que je dormais, soi-disant. Mais j'ai revécu ça très fort. C'est une opération du cerveau, donc c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, il faut déjà vous ouvrir le crâne et puis aller à votre centre principal avec le cœur. Je crois que le cerveau, c'est quand même très délicat. C'est vrai que je pensais pas me souvenir encore de certaines émotions.
Et là, finalement, avec un massage de l'intestin ou du ventre, des différents organes qui sont là, à cette place-là. Lors de ce massage, vous avez revécu de façon émotionnelle cette opération du cerveau.
Oui, j'ai revécu en tout cas une partie de cette opération du cerveau. En tout cas, question odeur, c'était très fort. J'avais vraiment l'impression de sentir des odeurs affreuses de médicaments et de toutes ces choses-là. Donc, c'était quelque chose qui était certainement encore bien intégré et qui avait besoin de sortir.
Donc finalement, ce lien entre l'intestin grêle et le cerveau et les souvenirs, la mémoire, il paraît évident en médecine chinoise.
Ah oui, pour la médecine traditionnelle chinoise, nos émotions sont dans nos organes.
Mais est-ce que le fait, par exemple, d'avoir un souvenir qui surgit, une émotion qui surgit au moment où on fait ce massage du ventre, c'est habituel, ça ne vous surprend pas ?
Non, ça ne me surprend pas, c'est le but. c'est un des buts de ce massage, ou ce n'est pas le but, mais c'est ce qui se passe. Le but n'est pas de se focaliser là-dessus, c'est comme le disait Sylvie, c'est une fois que l'émotion monte, de la laisser monter, sortir, de ne pas s'y attacher, de ne pas recréer une empreinte émotionnelle dans le corps ou dans l'organe, en insistant dessus non plus. De simplement de pouvoir vider, de faire le vide et de transformer.
Intéressant ce lien entre ventre, cerveau et émotion. Cécile Garin, votre neuro-gastro-entérologue, qu'en pense-t-il ?
Alors pour lui, c'est vrai que le siège de la mémoire n'est pas uniquement dans le cerveau, mais dans chaque organe ou la cellule elle-même ont la capacité de se remémorer des événements passés, on va dire au niveau cellulaire, notamment dans le cerveau digestif. Et quant à la tradition médicale chinoise, il n'est pas un expert du domaine, mais il souligne que dans de nombreuses traditions médicales anciennes, l'importance du ventre était beaucoup plus
grande
que maintenant.
Michel Neuliste.
le domaine du rôle du ventre, c'était principalement considéré soit effectivement faisant partie de la médecine traditionnelle chinoise, indienne, avec un côté assez philosophique. Hippocrate disait aussi « soigne-toi, que ta nourriture soit ton premier médicament ». Donc ceci montrait bien l'importance finalement du tube digestif et dans toutes ces croyances philosophiques populaires. Je pense que tout n'est pas faux et il y a probablement un fond de vérité qui est en train probablement de démontrer la science plus moderne avec les outils qu'on a. Et je pense que ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'on redécouvre un certain nombre d'adages, mais en leur fournissant des preuves scientifiques.
Michel Neuliste, neuro-gastro-entérologue à l'hôpital universitaire de Nantes. Et puis tout à l'heure, Vitao Hogan, qui est donc praticienne en massage Qi Nei Tsang. Sujet en nouvelle diffusion, réalisé par Cécile Guérin.
CQFD sur la première.